Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on a conscience que le Seigneur a déjà mis des mets succulents devant nos yeux? Est-ce qu'on a conscience que il faut faire plus qu'écouter, mais il faut obéir? Alors, j'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire, une anecdote qui nous est arrivée à Arlette et à moi, avec, je vais dire, quelqu'un que certains ont connu ici, qui s'appelait Dolly. C'était notre berger malinois. Alors nous étions dans les Alpes, à La Rosière, 1850 mètres d'altitude, et on avait décidé un jour de monter à Fort-la-Redoute, qui était à 2100 ou 2200 mètres d'altitude. Puis on dit, allez, on va y aller, on embarque le chien, enfin on embarque non, puisqu'on sortait du chalet à pied, et on a monté. Et arrivé à, on était à 3 kilomètres du Fort-la-Redoute, le chien disparut. On s'est dit, mais c'était un chien qui était vraiment attaché, mais d'une intelligence incroyable, il lui manquait que la parole. Elle avait disparu. Elle qui nous quittait jamais d'une semelle, elle avait disparu. Donc j'ai dit, ben je vais chercher. Donc je descends, j'ai pas cherché longtemps. Hein. Je suis descendu d'à peu près une centaine de mètres. J'ai retrouvé ma chienne dans un trou rempli d'eau. Elle était en train de boire, elle se baignait complètement parce que elle avait soif. Elle a quitté ceux qu'elle aimait parce qu'elle avait soif. Alors ma question ce matin, c'est de quoi avons-nous soif ce matin? De quoi on a soif? Tout à l'heure, il y a Emmanuel qui nous a parlé des gens qui sont attirés par le monde. Est-ce que notre soif, c'est la soif du monde? Est-ce que ma soif, c'est être missionnaire? C'est quoi votre soif ce matin? L'Ancien Testament ne stipule pas, mais il faut savoir que les Juifs, au moment de la fête, amenaient de l'eau du réservoir du Siloé dans le temple. Pendant 7 jours, ils mettaient à côté des offrandes, à côté de la cuve avec le sang, ils mettaient l'eau, ils ne savaient pas pourquoi, mais ils l'amenaient. Et ça ne changeait rien à leur vie. Ça ne changeait absolument rien à leur vie. Et un jour, Jésus s'est levé. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est un passage qu'on trouve en Jean chapitre 7, versets 37 à 39. C'est une invitation à courir, je ne dis pas marcher, comme l'image qu'a donnée Janet. Avancer à petits pas, c'est une invitation à courir à Christ pour être satisfait spirituellement. Et on va réfléchir ensemble à ces paroles. Cette invitation, elle est donnée à quiconque, puisque Jésus dit si quelqu'un, vous savez que même en étant baptisé, on peut avoir soif. Et quand je dis on peut, je fais une très grave erreur. Et je l'ai fait exprès. On doit avoir soif. L'évangile de Jésus, qu'annonçait Jésus, était universel. Il n'était pas adressé qu'aux Juifs. Il a été adressé à quiconque, aux Samaritains, à tous ceux qui l'entouraient. Parce que c'est un évangile qui sauve. Parce que l'œuvre de Christ est une œuvre qui sauve. La question ce matin, c'est de quoi j'ai soif et est-ce que j'ai soif? Personne n'était exclu et personne n'est exclu dans le salut de Christ. Ici, Jésus est debout. Il dit si quelqu'un a soif. Il s'agit bien sûr d'un besoin spirituel. Il ne s'agit pas ici d'un besoin physique, mais d'un besoin spirituel. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a envie d'être abreuvé, qu'il vienne à moi. D'où ma première question, de quoi avons-nous soif aujourd'hui? Par quoi est provoquée la soif? Pourquoi ma chienne est partie? Parce qu'elle venait de monter pendant 1h30, 2h. Nous, on avait des bouteilles d'eau. Elle n'avait rien. Et même avec nos bouteilles d'eau, on avait soif. Mais ma chienne n'avait rien. Elle nous a quittés, elle est allée à la source. Elle est allée là où elle trouverait de quoi l'abreuver. Est-ce que les choses que je trouve dans le monde aujourd'hui m'abreuvent? Est-ce que je suis satisfait par ce que me donne le monde? Et tout à l'heure, j'irai bien plus loin. La soif est un manque d'eau dans le corps humain. Et lorsqu'on a soif, c'est qu'il est déjà trop tard physiquement. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que lorsque l'on a soif, c'est un signe de déshydratation? Vous manquez d'eau. Le corps nous alerte. Aujourd'hui même, est-ce que je suis conscient peut-être que j'ai soif? Comment se traduit la soif dans ma vie? Des malaises, l'insatisfaction, l'envie d'être grand, l'envie d'être reconnu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui est important? Quand Jésus s'est levé, c'est parce qu'il voyait devant lui des gens qui, tous les ans, faisaient cette fête. Et rien ne changeait. Rien. Est-ce que c'est le fait de venir à l'église qui me remplit? J'espère que non. J'espère que non. Si je me dis que venir à l'église me sauve, je suis déjà mort aux yeux de Dieu. Quand Jésus se lève et dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi », c'est aller à Christ, c'est aller à lui seul. Quand on parle de ces choses, quand on prend conscience de ces choses, on prend conscience de son état de pécheur. Et c'est pour ça que Jésus s'est levé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si tu reconnais ton état, viens à moi. Si tu galères dans ta vie de chrétien, viens à moi. Si tu penses être plus haut que les autres, viens à moi, je te montrerai. Si on ne prend pas en compte cet état de dire que je ne suis rien devant Christ, j'ai besoin de Christ, j'ai soif de Christ, à aucun moment on ne pourra être sauvé. Parce que Christ se lève et dit « Si quelqu'un à moi, qu'il vienne à moi. » Ce n'est pas Christ qui nous prend et dit « Viens, qu'il vienne à moi. » Je reconnais mon état. Et si je ne fais pas ces choses-là, je ne peux pas être sauvé. Romains 3, 23, « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Si nous demeurons inconscients de notre besoin spirituel dans notre vie, nous ne voudrons jamais nous approcher de Dieu. Faites-en l'expérience. Essayez de réfléchir et vous verrez que si on n'a pas conscience de notre état, on n'aura jamais soif. On n'aura jamais soif. On sera comme l'a montré Jeannette, au bord du chemin, mais pas dans le pays. En Jacques chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, nettoyez vos mains, pécheurs. C'est là encore une position qu'il faut prendre devant l'Éternel. Nettoyer ses mains, prendre conscience qu'on est pécheur. Vous savez que j'ai lu pas mal de livres et il apparaît que beaucoup d'églises sont remplies d'hommes et de femmes mortes aux yeux de Dieu. Beaucoup d'églises. Parce qu'aucun n'a pris conscience de cette soif. Parce qu'aucun n'a pris conscience que Christ était la source. Jeannette a abordé tout à l'heure cette prise de conscience de son état ne peut se faire qu'en lisant la parole de Dieu, la Bible. La Bible nous transcrit exactement le caractère de Dieu. Comment on peut trouver le caractère de Dieu? Comment on peut se dire, mais où vais-je trouver cette source? Comment faire pour que ma conscience me dise, je ne suis pas comme ça? Ben vous lisez Galates 5:22. Ça nous retrace le fruit de l'esprit. Si vous êtes en Christ, si vous demeurez en Christ, vous avez le fruit de l'esprit. Parce que l'Esprit de Christ est en vous. Si vous n'avez pas cet Esprit de Christ, vous n'êtes absolument pas en lui. L'un des ministères de Christ, de l'Esprit, est de reproduire exactement Christ en nous. C'est bien aller bien plus loin. Ça veut dire que cet esprit a un contrôle absolu, je dis bien absolu, de notre moi. Et ici, je parle de soumission, être soumis à l'Esprit de Dieu. Le moi n'existe plus. On va voir maintenant le fruit de l'Esprit. On va voir pourquoi il est impossible que le « moi » existe. Parce que toutes ces choses sont produites par l'Esprit et ne peuvent être, dans le cœur de l'homme, faites que par l'Esprit. Il est impossible qu'un homme naturel soit comme ça. En Jean, par exemple, 15:5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'un des premières choses, c'est l'amour. La plus grande description de l'amour est en 1 Corinthiens 13. Vous rentrez chez vous, vous lisez 1 Corinthiens 13 et vous changez le terme charité ou le terme amour par Christ. Et vous verrez que ce texte va prendre un aspect totalement différent. Mais totalement différent. Si je déclare au monde que je suis en Christ, je déclare au monde que j'ai l'amour de Dieu en moi. La deuxième chose, c'est la joie. Cette joie n'a aucun rapport avec la sentimentalité, de légèreté, comme peut l'apporter le monde, de frivolité. Il s'agit d'un contentement et d'une satisfaction enracinée en Dieu et également dans ses pensées. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La joie d'être en Christ. La paix La paix. Je suis en paix avec mon voisin. Qu'est-ce qui me dit que ça va durer? Je suis en paix dans mon travail. Qu'est-ce qui me dit que ça va durer? La paix, c'est le calme intérieur qui permet à l'âme confiante de s'élever vers le Seigneur. De s'élever, mais également d'élever ses pensées. C'est de savoir que quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui permet, qui ordonne et qui dispose de toutes choses dans ma vie. C'est-à-dire que même s'il m'arrive quelque chose dans ma vie, je sais que Dieu sera là pour peut-être continuer ces choses dans ma vie, pour m'apprendre quelque chose. Et c'est ça qui fait que j'ai la paix de Dieu en moi. Philippiens, chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quoi qu'il arrive dans ma vie. La patience, c'est la capacité d'endurer l'affliction sans se plaindre, de supporter les torts sans se venger, d'être contrarié sans s'aigrir. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou charité. » La bonté. L'histoire du Samaritain nous montre ce qu'est la bonté. On le trouve en Luc, chapitre 10, versets 30 à 35. Celle-ci, la bonté, s'exerce envers les autres, au nom de Christ. C'est faire le bien envers les autres, au nom de Christ. C'est faire le bien envers ceux qui ne peuvent le rendre. Parce que souvent, quand on voit le monde, les gens font du bien, ils aident en espérant que... Il y a une petite récompense qui arrivera après. Je vais être reconnu parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Ici, je vous parle d'un désintéressement. Faire quelque chose en espérant ne pas être reconnu, en espérant ne pas avoir de merci, en espérant ne rien avoir en retour. C'est ça la bonté. C'est ça la bonté de Christ. C'est ça le fruit de l'Esprit qui agit en nous. La bénignité ou l'amabilité, c'est une qualité que le Seigneur nous rappelle. Quand il a repris les mères qui amenaient les petits-enfants, il leur répondit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » En Matthieu 10, 14. Christ a toujours été d'un abord facile. Il a toujours écouté. Il a toujours eu de la compassion. Il a toujours été courtois. Il n'a jamais été brusque. Dans le milieu mondain, l'amabilité, la politesse, c'est perçu comme une faiblesse. Si vous êtes trop poli, si vous êtes trop courtois, on dit c'est un faible. Parce qu'il a besoin d'affermir son caractère d'homme. Mais pour le chrétien, c'est un signe de grandeur. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. « Soyez bons envers les uns et les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est ça l'amabilité. La fidélité. Ou la foi. La foi en Dieu, il y a plusieurs mots, il y a plusieurs choses qui peuvent être associées à ça. Il y a la foi en Dieu, un calme solide et une confiance envers le Père Céleste qui nous aime. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». La foi en autrui. Si je dis ça comme ça, vous allez dire « Ouais, ben, c'est avoir confiance aux autres ». Non, absolument pas. C'est de voir et de croire qu'en chaque personne, il y a quelque chose de bon. C'est ça, la foi en autrui. C'est-à-dire n'avoir aucun jugement, aimer les gens. Penser que même derrière des attitudes, des comportements, il y a quelque chose de bon. Vous imaginez si Christ avait jugé, si Christ avait été méchant, entre guillemets, lui qui voyait tout, qui perçait le cœur des hommes, s'il avait été comme nous, nous sommes, comment aurait-il réagi? Devant chaque attaque, il a réagi avec amour, avec compassion. Combien de fois on lit qu'en voyant le peuple, il pleurait parce qu'il avait compassion. Et pourtant, les gens lui ont craché dessus, les gens l'ont frappé, les gens l'ont insulté. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qu'il a répondu. La bonne foi, la fidélité à sa propre parole, l'honnêteté, en Tite, chapitre 2, verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. La douceur qu'a montré Christ quand il a lavé les pieds. Il voulait aller au-delà de dire qu'il était serviteur des uns et des autres, mais il était doux. Doux au point de s'abaisser. Malgré ses prérogatives, il a été humble. Il a été doux. 1 Timothée chapitre 6 verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et enfin, le dernier, la tempérance. C'est ce qui est le plus difficile dans la vie d'un homme. C'est pour ça que je dis que naturellement, il est impossible d'avoir ces choses en nous. Ça se rapporte au contrôle de soi-même. Ça s'applique, comme on l'a vu tout à l'heure, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ça s'applique à nos passions et à nos désirs. De quoi j'ai soif ce matin? Merci pour ce verre d'eau. De quoi j'ai soif ce matin? V'là la tempérance. Par quoi suis-je attiré? Où ai-je mes pas? Suis-je au bord du chemin? Chacun, nous devons être chastes et continents des choses du monde. Il faut s'abstenir des convoitises, apporter toute modération aux choses qui nous semblent légitimes. Le chrétien devrait s'imposer une vie disciplinée. Pourquoi? Parce que chacun en a reçu l'Esprit. Chacun, on doit utiliser cet Esprit. Si nous avons déclaré que nous étions en Christ, nous avons cet Esprit. Et cet Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi ne pas développer cet Esprit? Pourquoi ne pas avoir soif de tout ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je recherche aujourd'hui? Jésus invite l'homme assoiffé à venir, certainement pas à l'Église, certainement pas aux anciens, certainement pas aux eaux du baptême, certainement pas à la table du Seigneur, mais à lui-même. Parce que si vous venez à Christ, tout ce que je viens de dire, ça sera dans votre vie. Vous allez vivre de ça, parce que des fleuves d'eau vive couleront de vous. Jésus a déclaré qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Est-ce que je vais à Christ? Et quand je suis à Christ, est-ce que je bois? Parce qu'ici, je ne parle pas d'un début, c'est-à-dire j'arrive, j'ai soif, je bois, terminé, au revoir. Mais d'une continuité dans la soif. Est-ce que je dis mon corps a besoin et besoin et besoin de Jésus? Même si ça fait 50 ans que je suis chrétien. Est-ce que je me suffis à Christ? C'est la question. Est-ce que mon baptême me suffit? Est-ce que le fait d'être au bord du chemin me suffit? Si dans vos têtes c'est oui, vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Jésus nous dira, mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? On aura beau dire, oui, mais je me suis fait baptiser, j'étais à l'église. Pascal, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné le pouvoir sur les dominations. Je t'ai donné le pouvoir de donner une parole de discernement, de sagesse. Qu'as-tu fait de tout cela? Et pourtant, tu as déclaré que tu étais en moi. Mais qu'as-tu fait de tout cela? Boire, c'est laisser Jésus pénétrer en nous. C'est ça, boire. Comme on laisse le verre d'eau entrer dans notre corps. Je vous ai dit tout à l'heure que la déshydratation, c'est déjà trop tard quand on a soif. Et c'est terrible. Vous allez sur un bouquin de médecine et vous regardez ce que ça provoque. Des maux de tête, fatigue. La première chose, c'est la perte de l'acuité visuelle. Et si vous continuez, les hallucinations. Et si vous continuez, vos organes vont s'arrêter les uns après les autres. 80% de notre cœur, de notre corps, c'est de l'eau. 80%. Le fait de boire, quand vous buvez, je me rappelle quand je courais énormément, il y a toujours quelqu'un qui m'a dit un jour, bois énormément après avoir couru, ça élimine les toxines. Parce que si on ne boit pas, les toxines s'emmagasinent dans les muscles et les crampes arrivent. Et si on approche ça de notre vie de chrétien, les crampes, c'est le blocage spirituel. Vous êtes bloqué dans votre vie de chrétien. Il faut boire, 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 parce que l'eau va permettre d'évacuer les toxines. Crise dans votre vie va avoir exactement le même effet. Il va venir vous remplir. Et si vous avez cette image d'être rempli, ça veut dire que tout le reste, il va le faire partir. Mais pour ça, il faut boire, 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 boire. Si un jour on s'arrête de boire, les toxines réapparaissent. Boire, c'est quoi? C'est lire la parole. C'est prier. C'est faire que jamais on ne quitte les yeux ni le regard de Christ. Si vous n'avez pas ça dans vos vies, les crampes vont venir. Et vous allez voir des gens, vos frères, vos sœurs, qui vont être plus loin que vous. Et vous, vous allez dire, mais comment ça se fait? C'est tous les problèmes dans ma vie. C'est toutes les choses que je traverse. C'est faux. Le problème vient de vous. Le problème vient de ce manque de tendre la main vers le verre. qui est Christ. De tendre la main vers cette eau vive que vous propose Christ. Et personne d'autre. Aucun des anciens ne peut vous proposer ce que Christ vous propose. Aucun. Aucun pasteur. Aucun prédicateur magnifique et merveilleux. Et je pense que Norman serait absolument d'accord avec cela. Même Norman est incapable de vous proposer ce que Christ propose. Il peut vous dire, comme on pourra vous dire, « Regarde, le verre, il est là. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est tendre la main. » Lorsque la purification est faite, lorsque cette eau est pénétrée en nous, lorsque cette eau est pénétrée en nous, des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Vous imaginez ? C'est l'Esprit de Dieu qui vient en vous, mais ce n'est pas pour vous l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour que je le garde dans mon cœur et dire « Ah, je suis sauvé, merci, je m'assois, je reste sur le bord du chemin. » Non. Parce que vous allez vous apercevoir qu'il n'est pas possible de garder ces choses. Ça va couler naturellement de vous. Naturellement. Parce que vous êtes rempli, sans arrêt rempli. Vous n'êtes plus à des kilomètres derrière à vous asseoir, à vous plaindre. Vous êtes rempli de la joie, de la bonté, l'amabilité, de toutes ces choses. Parce que c'est le fruit de l'Esprit qui est en vous. Et vous avancez, quoi qu'il arrive, vous avancez et vous déversez ces choses. Regardons notre état ce matin. Regardons notre état de soif. Est-ce que j'ai réellement soif de Christ? Ou est-ce que je suis religieux? Ou est-ce que je suis évangéliste? Ça ne veut absolument rien dire du tout. Absolument rien dire du tout. Je vous le dis tout de suite. Christ s'est donné pas seulement pour les Juifs, il s'est donné pour les païens. Et dans la parole, au départ, nous étions les gentils. Les païens, ceux du monde extérieur. Et comme son propre peuple a refusé, Jésus-Christ est venu pour tout le monde, pour quiconque. C'est ce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif. Il n'est pas réservé qu'aux évangélistes, il n'est pas réservé qu'à ceux qui vont à l'église, parce que ceux qui pensent ça sont morts et condamnés. Il est réservé à ceux qui demeurent en lui et en qui il demeure, en qui le fruit de l'Esprit est fait et sort continuellement. Si vous ne faites pas le plein de votre voiture, pour les nouvelles voitures, vous allez faire 1000 km. Et si vous ne faites pas le plein, elle va être jolie, votre voiture, sur le bord de la route et vous à pied. Dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. J'ai la voiture, mais il faut que je fasse le plein. Le Seigneur vous a donné, à un moment donné de votre vie, la joie d'entendre sa parole. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous avez entendu à un moment donné de votre vie la parole de Dieu. Vous avez répondu. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai encore soif? Est-ce que Christ dans ma vie n'est pas devenu une habitude? Un petit truc qu'on enlève le dimanche matin, qu'on enlève la poussière et qu'on ramène à l'église? Je le fais exprès de parler comme ça. Parce que parfois dans nos vies, c'est ce qui se passe. Christ est devenu un accessoire. Quand il y a des grandes réunions, quand Jésus dit, moi je suis chrétien, je ne peux pas asseoir là. Mais le suis-je réellement? Et quand je vous dis ça, je dis à moi également. Est-ce que j'ai réellement soif? Ce matin, on doit prendre cette proposition de Christ vraiment au sérieux. Tout est en train de s'accélérer. Je ne sais pas si vous remarquez, je ne veux pas être un prédicateur de la fin des temps, mais tout est en train de s'accélérer. Tout est en train de se mettre en place, comme le dit l'Écriture, la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, j'ai réellement envie d'écouter la proposition de Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi? Peut-être ce matin, on en est éloigné. Peut-être ce matin, on est simplement au bord du chemin. Et puis, on veut profiter du monde, parce qu'on aime la vie. Ou alors, est-ce qu'on n'a jamais exposé notre vie à Christ? C'est pas facile d'exposer sa vie à Christ. Parce que Christ va nous montrer exactement comme nous sommes. Peut-être des gesticulateurs, peut-être le pire des pécheurs, peut-être quelqu'un de bien. Et c'est certainement ce que Christ va dire, tu es quelqu'un de bien. La seule chose, viens à moi, viens à moi. Est-ce qu'on est soumis à Christ ? Je m'en fiche que vous soyez soumis aux anciens, je vous le dis tout de suite. Hein. Je m'en fiche royalement. Moi, le gars qui n'est pas soumis à moi, je m'en fiche royalement. La seule question que je lui pose, c'est au moins, es-tu soumis à Christ? C'est beaucoup plus important pour moi. Beaucoup plus. Peut-être qu'on galère dans notre vie de chrétien, on ne se trouve pas là où on devrait être. Que fais-je pour ça? Notre suprême ambition ce matin, c'est de progresser jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et Christ formé en nous, c'est recevoir cette eau vive. C'est vraiment l'espérance et la gloire. C'est ce qu'on doit souhaiter le plus au monde, que Christ soit formé en nous. Alors, je vais vous reposer cette question et je terminerai par ça. De quoi avons-nous soif ce matin? Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cet esprit que tu nous as donné. Mais Seigneur, l'image de Jeannette est terrifiante. Le fait de rester sur le bord du chemin, de taper du pied quand on n'est pas d'accord ou de reculer. Christ n'a pas reculé. Lorsqu'il savait où il allait sur cette croix, qu'il allait connaître l'ignominie de la croix, il n'a pas reculé. Seigneur, que ton esprit ce matin saisisse les âmes de ceux qui sont loin de toi, les âmes de ceux qui ne sont pas soumis à toi, les âmes de ceux qui ne se trouvent pas assoiffés. Seigneur, produis cette soif dans le cœur des uns et des autres. Et Seigneur, que nous ayons chacun à cœur de toujours venir à toi pour être abreuvé. Parce que tu l'as dit, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Parce que tu seras en nous, formé en nous. Seigneur, que ton esprit aujourd'hui, Seigneur, fasse un miracle. Seigneur, que nous puissions être en toi pleinement et qu'en toi, Père, par le nom de Jésus. Amen.